Il est 6h.
On observe des patients qui sont un petit peu plus jeunes, qui présentent souvent des comorbidités. Les patients jeunes mettent plus de temps à venir à l'hôpital et lorsqu'ils sont admis, ce sont des patients qui sont plus graves.
Après avoir été épargné par la troisième vague de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine fait actuellement face à une flambée de cas. La situation pourrait vite devenir critique dans les hôpitaux. Près de 8 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, mais les gestes barrières restent de mise, même pour eux. Dans ce journal, la défense de l'armée française, accusée d'avoir tué une vingtaine de civils au Mali en janvier dernier. Et puis ce poisson d'avril avant l'heure de Volkswagen aux États-Unis. Le récit de notre correspondant à la fin de ce journal.
La page des sports à suivre et puis mon invité inattendu qui va venir nous donner le secret de la meilleure baguette. La baguette, ce savoir-faire qui fera peut-être bientôt partie du patrimoine de l'UNESCO. La candidature est lancée et c'est un boulanger inattendu que j'appelle dans un quart d'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y a une quinzaine de jours, on transférait des patients d'Île-de-France où les hôpitaux sont saturés vers la Nouvelle-Aquitaine, région jusqu'alors relativement préservée par l'épidémie. Et sauf que la situation sanitaire s'est nettement dégradée ces derniers jours. Le CHU de Bordeaux tire la sonnette d'alarme. Mathieu Biais dirige le pôle anesthésie et réanimation.
Il y a une augmentation très significative du nombre de cas en hospitalisation et en réanimation et on se retrouve un petit peu à la limite du système. Il faut savoir qu'on a été obligé par exemple de devoir augmenter le capacité en réanimation. On a créé 10 lits de réanimation. Ça se fait au prix d'une déprogrammation au niveau des activités médicales et chirurgicales. Nous avons plus d'entrées Covid que de sorties Covid et nous avons en permanence au niveau du CHU de Bordeaux entre 50 et 55 patients qui sont dans des lits de soins critiques. On observe des patients qui sont un petit peu plus jeunes, qui présentent souvent des comorbidités. Les patients jeunes restent très probablement plus longtemps chez eux, mettent plus de temps à venir à l'hôpital. Et lorsqu'ils sont admis, ce sont des patients qui sont plus graves que ce qu'on a pu voir lors des deux premières vagues.
Le professeur Mathieu Biais du CHU de Bordeaux avec notre correspondant Stéphane Place.
Pour l'heure, plus de 5000 malades du Covid sont hospitalisés en réanimation. Emmanuel Macron présidera tout à l'heure un conseil de défense sanitaire.
Malgré la pression exercée par les professionnels de santé, il y a encore beaucoup de flou autour d'un éventuel durcissement des restrictions. Ce qu'on sait, c'est que dès demain, les contrôles seront intensifiés avant le week-end de Pâques, classé à haut risque.
Sur le front de la vaccination, près de 8 millions de Français ont reçu une première dose, plus de 2,5 millions ont reçu les deux.
Et pour eux, cette question se pose, doit-on garder le masque et continuer de respecter la distanciation physique? Pour l'instant, les autorités sanitaires imposent le maintien des gestes barrières pour tout le monde, mais Anne Le Gall, cela pourrait évoluer.
Voilà, pour l'instant, la France joue la carte de la prudence, mais aux États-Unis, les autorités sanitaires estiment que deux personnes vaccinées peuvent se retrouver sans risque dans un lieu clos, sans masque, et qu'un Américain qui a reçu deux injections n'a pas besoin de se mettre en quarantaine quand il est cas contact. Cette adaptation des mesures barrières est aussi à l'étude en France, mais pour l'instant, statu quo, explique le professeur Elisabeth Bouvet, qui préside la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé, car si le vaccin protège des formes grave du Covid, on n'a pas encore la preuve qu'il supprime totalement la transmission du virus.
Les personnes vaccinées, elles peuvent rester encore parfois porteuses du virus, mais à des taux plus faibles. Donc elles sont susceptibles éventuellement de transmettre. Donc c'est pour ça que quelqu'un de vacciné, en face de quelqu'un qui ne l'est pas, doit garder les gestes barrières. En face de quelqu'un qui l'est, je pense qu'on peut assouplir.
Des données issues de la vaccination en Israël, en Grande-Bretagne, aux États-Unis sont actuellement à l'étude pour mieux comprendre l'impact du vaccin sur les transmissions. Et selon les conclusions, le Haut Comité de Santé publique pourrait adapter ses recommandations dans une dizaine de jours.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
À l'étranger, la polémique autour de la frappe qui a tué 19 civils au Mali au mois de janvier dernier. L'ONU se dit préoccupée après la publication d'un rapport qui révèle qu'il y a bien eu une bavure de l'armée française.
Et cette dernière réfute les conclusions de ce rapport et maintient sa version. Il n'y avait pas de mariage sur place et l'opération a permis d'éliminer un groupe de combattants terroristes. Frédéric Barbry, porte-parole de l'armée française.
Nous maintenons que cette frappe visait un groupe armé terroriste. Nous n'avons pas commis de dommages auprès des civils. Nous avons réalisé une frappe ciblée qui a été précédée d'une phase de renseignement avec un drone qui a pu observer la zone pendant plusieurs heures et déceler des individus rejoignant un groupe armé terroriste. L'essentiel du rapport se fonde sur des témoignages dont on connaît la fragilité, puisque je vous rappelle également qu'au début, les témoignages avaient fait état de frappes de nuit, de frappes avec des hélicoptères, évoquant un certain nombre de morts et de blessés sans aucune mesure avec la réalité, donc fragilité des témoignages, et puis absence de traçabilité de ces témoignages qui ne nous permettent pas de savoir quelles sont les sympathies ou les allégeances que peuvent avoir les témoins avec les djihadistes.
Le porte-parole de l'armée française avec Théo Manval.
Europe 1.
Vous les voyez quand vous naviguez sur Internet, ces petites fenêtres de publicité qui s'ouvrent sans cesse, du changement sur les cookies, ces petits logiciels qui vous traquent et qui vous envoient de la publicité sur Internet. C'est à suivre dans votre journal de 6 heures.
Et puis Volkswagen, bientôt le nouveau nom de Volkswagen. En tout cas, tout le monde est tombé dans le panneau.
A tout de suite sur Europe 1, 6h05.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h07 sur Europe 1, la suite du journal, Sophie Echen.
Il va y avoir du changement à partir de demain sur tous les sites web français concernant l'utilisation des cookies dans la publicité ciblée en ligne. Désormais, il y aura plus de clarté. C'était une demande de la CNIL, le gendarme des libertés et de l'informatique. Alors Aude Leroy, qu'est-ce qui va changer ?
Eh bien, ce qui change, c'est que dès demain, quand vous irez sur un site, vous aurez toujours la petite fenêtre qui va s'ouvrir, celle qui vous demande d'accepter des cookies, ces traceurs qui aident à la navigation, à vous identifier, à vous géolocaliser. En général, vous cliquez dessus automatiquement. Eh bien là, un autre bouton tout aussi gros va vous être proposé pour, cette fois, refuser les cookies, en tout cas ceux qui servent à capter vos données pour vous proposer ensuite des publicités parfaitement ciblées. Le but, c'est de redonner le contrôle à l'internaute de ces données, qu'il choisisse si oui ou non il accepte d'être tracé. Ça ne se fera plus dans son dos et c'est fondamental pour Clémence Côté, chef du service des affaires économiques de la CNIL.
Avant, les internautes poursuivaient leur navigation sans faire attention au bandeau qui leur indiquait que cette poursuite valait consentement. Là, ils vont véritablement devoir agir. S'ils ne font rien, aucun traceur n'est déposé. Il s'agit d'un tournant, vraiment, sur la reprise de contrôle des internautes sur leurs données.
Du coup, les entreprises vont être obligées d'être plus transparentes, de convaincre l'internaute de leur laisser stocker ses habitudes de navigation. Elles n'ont pas le choix. L'amende de la CNIL peut aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires.
Les précisions d'Aude Leroy.
Et puis, c'est un poisson d'avril anticipé qui a plutôt bien marché, poisson d'avril signé Volkswagen.
Ou plutôt Volkswagen. Le constructeur automobile a annoncé vouloir changer de nom aux États-Unis pour symboliser son passage à l'électrique. Une demande officielle, mais c'était bel et bien un canular, Alexis Guilleux.
Oui, et beaucoup de monde est tombé dans le panneau. Il faut dire que la marque allemande avait vu les choses en grand. Un communiqué sur le site américain, un changement de nom sur Twitter. Un porte-parole de l'entreprise aux États-Unis a même confirmé hier ce changement de nom, Volkswagen, pour symboliser ce passage à l'électrique. Mais l'information a en fait été démentie par un autre porte-parole du groupe. En fin de journée, il s'agit bien d'une blague. Alors pourquoi on y a cru ? Eh bien parce que Volkswagen a l'ambition de devenir le leader mondial des voitures électriques devant l'américain Tesla d'ici 2025, son principal rival dans le secteur. Et puis parce que la marque veut également soigner son image, elle qui est surtout connue aux États-Unis pour le Dieselgate, scandale qui a coûté des milliards d'euros. Finalement, ce poisson d'avril avant l'heure, c'est un coup marketing. Volkswagen fait parler d'elle au moment où elle lance son nouveau véhicule aux États-Unis. Un SUV 100% électrique.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et puis, c'est le monde qui change. Google proposera bientôt les trajets les plus respectueux de l'environnement sur son application GPS Maps. Il sera bien sûr toujours possible de choisir l'itinéraire le plus court. Cette amélioration sera d'abord mise en place aux États-Unis cette année avant d'être étendue au reste du monde.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h10. Le journal des sports, c'est avec Axel May et on commence, Axel, avec les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Les Bleus ont l'occasion ce soir de conforter leur première place.
En tête de leur groupe de qualification après le nul contre l'Ukraine et la victoire au Kazakhstan, les Bleus jouent à 20h45 à Sarajevo face à la Bosnie-Herzégovine. Hugo Lloris fêtera sa 123e sélection, rejoignant Thierry Henry à la deuxième place des joueurs ayant le plus de fois porté le maillot bleu. Incroyable, estime Capitaine Lloris, 34 ans.
C'est une grande fierté. Après, pour être honnête avec vous, lorsque j'ai démarré le rassemblement, je ne pensais pas du tout à ces chiffres. Je suis davantage focalisé sur l'équipe et sur les résultats à faire, à aller chercher. Voilà, lorsqu'on commence une carrière, il est difficile d'imaginer une carrière internationale, pardon, autant de matchs joués avec les Bleus. Mais voilà, après, je n'ai jamais couru après les records. Ils sont plutôt venus naturellement. Et on va continuer en espérant gagner le match.
Hugo Lloris avec Julien Froment.
Et quel est le joueur le plus capé ?
Lilian Thuram, 142 sélections au compteur, soit pour l'instant 19 de plus que le gardien des champions du monde actuel. Concernant le journaliste spécialisé dans le foot, Pierre Ménès, accusé de comportement sexiste, il ne sera pas présent à l'antenne de Canal+ ce week-end. Et le journal L'Équipe ce matin n'hésite pas à titrer « Ménès proche de la sortie ».
Et puis quand le Covid s'invite dans les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations.
La Sierra Leone devait battre hier soir le le Bénin pour se qualifier. Mais juste avant d'arriver au stade de Freetown, les Béninois apprennent que leurs meilleurs joueurs sont positifs au Covid et crient au scandale. Alors sont-ils tombés dans un traquenard tendu par leurs adversaires de Sierra Leone? Gros imbroglio et match reporté sine die. Et puis Trésor Makunda, ce nom vous dit-il quelque chose? À bientôt 38 ans, l'athlète déficient visuel a décroché hier soir sur le fil sa qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Ce sera sa quatrième participation aux Jeux avec un cri de guerre.
Prêt pour Tokyo. Si on doit le faire, on va le faire. Je suis passionné par ce sport. J'aime mon équipe de France et j'ai encore faim. Ouais, c'est un soulagement parce que on sentait que dans les jambes, on les avait. On avait ces chronos-là. Et donc, ça mettait un peu de frustration et un peu de stress. On se disait, ouais, quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce que ça va venir? Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, tout était réuni.
Trésor Makunda, qui est spécialisé dans le 100, le 200 et le 400 mètres. Et à chaque fois, il a été médaillé lors de ses participations aux Jeux paralympiques. Propos recueillis par Corinne Boulou. Et puis, j'en profite pour vous dire, Alaphilippe, qui prend sa retraite. Non, évidemment, pas Julian Alaphilippe, le champion du monde, mais son frère cadet, 25 ans. Brian Alaphilippe a annoncé hier qu'il rangeait son vélo.
25 ans, c'est jeune pour une retraite quand même.
Oui, mais il a toujours eu un peu plus de mal que son frangin.
Axel May pour le journal des sports. Merci à vous. Europe 1. Il est 6h13. Vous l'aimez comment, vous? Pas trop cuite ou bien dorée? La baguette bien fraîche et croustillante au petit-déj, c'est quand même un plaisir bien français. Et un savoir-faire que nous mettons à l'honneur ce matin, puisque la baguette va concourir au nom de la France pour rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'est un boulanger qui est mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Reda Kader. Je suis fournisseur officiel de l'Élysée et d'autres ministères de Paris.
Fournisseur officiel de l'Élysée, vous êtes effectivement un boulanger pas tout à fait comme les autres. Reda Kader, merci d'être avec nous. Vous fournissez l'Élysée, Matignon, le Parlement. Vous allez nous dire quel est votre secret. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h17 sur Europe 1. Mon invité inattendu ce matin est un boulanger, pas comme les autres, puisque sa baguette est dégustée par les grands de ce monde. Reda Kader, vous avez votre boutique dans le 14e arrondissement à Paris et vous êtes donc le fournisseur du palais de l'Élysée, mais aussi de Matignon. Comment vous avez été choisi?
Déjà, j'ai gagné la meilleure baguette en 2013. C'est une des meilleures baguettes. Après la calétude de pain, il était là et il m'a fait aussi un appel d'offres. J'ai gagné deux fois l'appel d'offres de marché et je suis resté fournisseur officiel.
Concours de la meilleure baguette en 2013 et depuis, c'est toujours vous qui êtes servi sur les tables. Alors sur les tables des chefs d'État, j'imagine qu'il y a un certain nombre de grandes ce monde qui ont dû déguster votre baguette.
Beaucoup de chefs d'État qui ont dégusté la baguette, la vinoiserie.
Je crois même que vous avez des photos dans votre boutique.
Tout à fait, j'ai des photos avec des chefs d'État et je suis fier à fournir l'Élysée parce que la qualité elle est là.
C'est combien de baguettes que vous livrez à l'Élysée chaque semaine?
Suivant, ça n'a pas de sens. 90 boules, ça dépend des jours.
Ça dépend des jours et des dîners d'État avec beaucoup de monde. Il y en a, j'imagine, de moins en moins en ce moment. Au Paradis Gourmand, c'est le nom de votre boulangerie dans le 14e arrondissement. Chacun peut y aller. Vous ne faites pas que du pain pour l'Élysée. C'est quoi le secret de votre baguette?
Le secret, c'est le travail, la farine et le levain. Je fais avec un levain naturel qui le fait vieillir. Ça fait 10 ans que je travaille avec. Et j'ai préparé le pain... 48 heures à 72 heures à l'avance.
Ah, c'est ça votre secret. Vous faites vous-même votre levain?
Oui, moi-même qui fais mon levain. Ça fait 10 ans que je travaille avec le même levain.
Avec le même levain. C'est un savoir-faire français, la baguette. C'est tellement un symbole de la France qu'on on est même surpris que ce ne soit pas encore à l'UNESCO, en fait.
Justement, on sait de mettre l'UNESCO, ça serait une fierté pour nous. Parce que j'espère, parce que M. le Président, il a parlé de ça en janvier, avec les syndicats de la boulangerie, on attend, j'espère que ça sera prochainement.
La baguette va concourir cette année, c'est officiel, et l'UNESCO va décider de l'inscrire ou non au patrimoine immatériel à l'automne 2022. Si vous pouvez nous donner 2-3 conseils, comment on reconnaît une bonne baguette? Comment choisir sa boulangerie finalement quand on en a plusieurs autour de chez soi?
Déjà, la qualité de cuisson, la baguette onctueuse, bonne pain croustillant qui peut se garder toute la journée jusqu'au lendemain matin.
Elle doit pouvoir se garder jusqu'au lendemain sans trop ramollir, c'est ça le critère?
Oui, voilà, c'est ça. Franchement, le nôtre, même des présidents de placement de président au lendemain matin, le pain, ils les mettent 2 minutes au four et le mange, c'est qu'il sort comme aujourd'hui, la sortie de four.
Ouais, ça bouge pas. Alors vous êtes, on va peut-être dire un mot de votre parcours, Reda Kader, parce que vous êtes tunisien. Comment vous en êtes arrivé à être le meilleur boulanger de Paris?
J'ai commencé à l'âge des 15 ans. C'est maman qui m'a poussé dans le pétrin, mon frère. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait mon apprentissage. J'ai travaillé beaucoup la boulangerie. C'était ma passion. Et j'aime beaucoup ce métier. Et voilà. Et ma mère, elle faisait le pain aussi. Grâce à elle, j'ai pris le vin naturel et je travaille avec. Et aujourd'hui, je suis en train de faire d'autres nouveautés de pain, d'autres saveurs. Et là, ma passion, faire aujourd'hui, en plus, je suis fier de servir sur la table des présidents des bons pains. J'essaie de faire toujours attention. Et c'est très important pour moi.
Et je crois même qu'Emmanuel Macron vous a emmené en Tunisie lors d'une visite officielle.
Oui, c'est vrai. Même Monsieur Hollande aussi, je suis parti avec lui.
Bon, voilà, vous avez votre ronde serviette à l'Élysée, du coup, maintenant.
Ouais. Et on sait parler parce que la baguette française, c'est les meilleures baguettes au monde, je suppose. Moi, je voyageais partout, mais la baguette française, on la trouve nulle part.
C'est vrai
que transférer le Nosco, c'est une fierté. Et c'est tout à fait normal.
Et c'est vrai que quand on a l'occasion de voyager, on se rend compte assez vite que c'est ce qui manque et ce qu'on ne trouvera pas, c'est le bon pain croustillant à la française et cette baguette donc, qui va concourir pour le patrimoine de l'UNESCO. Bravo à vous, Rida Kader, boulanger donc, de l'Élysée, de Matignon, de quelques autres ministères. Merci à vous d'avoir été l'invité inattendu ce matin d'Europe 1.
Merci.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20, un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée. Ce matin, le gouvernement pourrait...
Europe 1.
6h24, c'est l'heure de la partition avec Omblin Roche, l'histoire chaque matin derrière un artiste. Une artiste ce matin qui, il y a 10 ans, faisait partie de cette nouvelle garde des chanteuses pop avec Lady Gaga ou encore Rihanna. Omblin en parle ce matin de Katy Perry qui avait pourtant emprunté un tout autre chemin.
Oui, la voix chrétienne, Sébastien, mais ça, c'était avant d'opérer un virage à 180 degrés en chantant « J'ai embrassé une fille et j'ai aimé ça ».
Ça, c'était son premier single qui a provoqué un raz-de-marée chez les disquaires. Mais au cœur de sa congrégation, nombreux sont ceux qui ont avalé le vin liturgique de travers.
Il faut préciser que Katy Perry a grandi au sein d'une famille très pratiquante avec un père, pasteur évangéliste, qui lui inculque une éducation ultra-protestante à la maison, à Santa Barbara. Il est hors de question pour elle d'écouter autre chose que de la musique chrétienne. Elle est encore Katy Hudson et tout naturellement, elle chante du gospel. Sa vie est rythmée par les messes et les camps de vacances religieux.
Le label de l'église évangélique Red Hill Records à Nashville pense avoir trouvé le bon filon et voit en Katy Hudson l'alternative chrétienne à Christina Aguilera ou Britney Spears.
Un album sort en 2001, l'échec, autant vous le dire, est cuisant avec à peine 200 exemplaires vendus, 200 Red Hill. Mais la clé sous la porte, la chanteuse californienne croise le chemin de Glenn Ballard qui a travaillé avec Michael Jackson, qui a produit le premier album d'Alanis Morissette, il devient son mentor. Katy Hudson s'émancipe, change de nom, devient Katy Perry. Elle change sa stratégie aussi. Et ça cible les ados et les jeunes adultes.
Et Katy Perry mute et se crée un rôle sur mesure. Hein. Cool, sexy et rock.
En changeant de couleur de cheveux au gré de ses humeurs, la petite fille rebelle de l'Amérique est en train de naître. Et à chaque nouvelle équipe artistique et marketing autour d'elle, les contours de son personnage apparaissent de plus en plus nets.
Épaulée par son nouveau guide, Katy Perry suscite l'intérêt d'un nouveau label.
Le très cool Island Def Jam, la maison de disques branchée de Kanye West, la marque Katy Perry se développe. Elle devra cependant attendre sa signature avec Capitol Records en 2006 pour voir le résultat de sa mue. Avec le disque One of the Boys, la chanteuse est directe et elle s'impose comme la nouvelle sensation au rayon pop acidulé.
son premier album en 2008, le premier sous son nom de scène.
Puisqu'on
a compris qu'elle avait chanté du rock chrétien avant ça.
Sous le nom de Katie Hudson. One of the Boys, c'est le nom de ce disque. C'était Hot and Cold. Elle pourrait, Katy Perry, être la prochaine chanteuse à décrocher une résidence à Las Vegas. À l'instar de Céline Dion, il y a 10 ans au César Palace, Katy Perry pourrait par la même occasion inaugurer une nouvelle salle, et ça, ils sont peu à l'avoir réalisé. Ce sera pas avant 2022.
Oui, encore faut-il pouvoir les remplir.
C'est
ça. 2022, il y a le temps. On oublie de roche pour la partition chaque matin. Merci. 6h29. Laurent Cabrol, c'est à vous et c'est l'été.
Oui, c'est l'été. Nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Pourquoi ? Parce que d'abord, il fait très beau, le ciel est dégagé et nous allons probablement battre des records. Alors, des records ont été battus hier, hein, Rennes, Cherbourg, Lille, Saint-Dizier, Troyes, Bourg-Saint-Maurice. Des records à battre, Paris, peut-être aujourd'hui, Nancy, Tours, Saint-Brieuc, Cognac, Lyon. Ce sont des villes où les records sont vraiment tout près d'être battus. Bon. Ça, c'est les bonnes, ce sont les bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle, c'est quand même que nous sommes dans les grandes marées. Hein. Ça veut dire que si vous allez à la pêche à pied, vous allez vous régaler aujourd'hui. Bon, fermons la parenthèse. Les températures ce matin, pratiquement pas de gelée. Il fait entre 2, il fait entre 2 et 13 degrés. 13 à Paris, 2 degrés à Charleville, 7 au Havre, 8 à Marseille, 10 à Lyon et 11 à Toulouse. Dans la journée, toujours la Méditerranée avec des petites températures entre 18 et 20. Et puis ensuite, nous avons 23 degrés à Romanche, à Toulouse, à La Rochelle, 24 à Cône-sur-Loire, à Pontivy, à Belfort, 25 à Lyon cet après-midi comme à Château-Chinon, 26 à Paris, Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux et Hendaye, 28 à Biscarrosse sur les températures maximales. Et puis, je vous parlerai de la suite tout à l'heure, mais j'ose pas vous le dire parce que franchement, allez, l'hiver n'est pas loin.
Aïe, aïe, aïe. Bon, à tout à l'heure, Laurent Cabrol, juste avant 7h.
Eh oui.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil avec Europe 1, tout de suite votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à toutes et à tous.
Il est 6h30.
Plus on teste, plus on arrive à savoir, à cibler qui est positif et qui ne l'est pas. Et je sais que si je l'attrape, j'ai peu de chances d'être gravement malade. Mais par exemple, mes parents ou même ma famille, j'ai tout sauf envie de les contaminer.
Un dépistage au résultat plutôt rassurant à Drancy, dont le lycée de la Croix a commencé à rouvrir certaines classes après une série de contaminations. La France, dans son ensemble, plutôt inquiète. Taux d'incidence, hospitalisation, admission en réa, tous les indicateurs sont dans le rouge. Et puis eux ont le droit de voyager pour défendre nos couleurs. Les footballeurs de l'équipe de France sont en Bosnie-Herzégovine. C'est la suite des qualifications pour le Mondial 2022.
Après le journal, faut-il s'inquiéter de ce nouveau variant découvert près de Paris, le variant Henri Mondor, du nom de l'hôpital de Créteil qu'il a identifié. L'équipe du professeur Jean-Michel Paulotsky en est à l'origine de cette découverte. C'est lui, ce virologue, qui est mon invité dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un rituel, voire une petite musique, celle à laquelle nous ont habitués nos mercredis matins depuis des mois, Conseil de défense, puis Conseil des ministres, avant d'éventuelles annonces de l'exécutif. Tandis qu'on commence à parler des choix, voire du tri qu'il faudra bientôt faire entre les malades à soigner. Anne Le Gall, nous sommes 10 jours après l'arrivée du semi-confinement et la situation continue de se dégrader.
Oui, car à ce stade, les indicateurs de l'épidémie ne permettent pas encore de déceler les premiers signes d'accalmie. Au contraire, hier, la France a dépassé les 5000 malades admis en réanimation et le taux d'occupation de ces services a atteint 100% au niveau national et même 133% en Île-de-France. Par ailleurs, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, continue d'augmenter au niveau national dans toutes les tranches d'âge, particulièrement entre 10 et 40 ans, ce qui fait que l'on compte aujourd'hui 62 départements avec un taux d'incidence supérieur au seuil d'alerte. C'est 20 de plus que la semaine dernière. L'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région PACA continuent par ailleurs d'inquiéter plus particulièrement les autorités car les services de réanimation y sont saturés et l'on sait que cette flambée épidémique fera encore gonfler le nombre d'hospitalisations dans les semaines à venir. En Île-de-France, les réanimateurs s'attendent d'ailleurs à prendre en charge d'ici mi-avril davantage de patients que lors de la première vague.
Spécialiste santé d'Europe 1.
C'est un établissement durement touché par l'épidémie. Plus d'une vingtaine de proches d'élèves du lycée Delacroix de Drancy sont morts du Covid en un an de crise sanitaire.
Et 22 classes étaient fermées en fin de semaine dernière pour des cas de contamination. Campagne massive de tests sur place hier et aujourd'hui. Bilan plutôt rassurant. Johanna Chabas y est pour Europe 1.
Du coup,
négatif. Je suis contente. Ça rassure un peu. Je sais que je le ramène pas chez moi.
Maëlle est en terminale. Elle ne va plus en cours depuis lundi, pas parce qu'elle est malade ou cas contact, mais parce que ses parents, trop inquiets, lui demandent de rester à la maison. Ce dépistage massif la rassure.
Je me sens plus en sécurité maintenant que sur les dernières semaines et même depuis septembre. Plus on teste, plus on arrive à savoir, à cibler qui est positif et qui ne l'est pas. Et je sais que si je l'attrape, j'ai peu de chances d'être gravement malade. Mais par exemple, mes parents ou même ma famille, j'ai tout sauf envie de les contaminer.
275 personnes volontaires se sont fait dépister avec des tests antigéniques. 3 sont revenus positifs. Cette campagne, ce sont les professeurs qui l'ont réclamée. Selon eux, la situation épidémique est ingérable. Une vingtaine ont déjà exercé leur droit de retrait. Aurélie ne fait plus cours depuis une semaine.
Moi, j'ai peur. Le matin, quand je vais au lycée, on se sent en danger. On a des salles qui sont petites. Je peux avoir pendant 2 heures 30 élèves dans ma salle de classe avec moi, avec la moitié des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. C'est vraiment des nids à Covid.
Elle et ses collègues demandent à ce que les cours reprennent totalement en distanciel, au moins jusqu'aux vacances, pour casser les chaînes de contamination.
Et face à la crise économique, une nouvelle aide annoncée pour les entreprises qui ont du surstock, notamment les commerces de chaussures, de vêtements, d'articles de sport. L'enveloppe de 200 millions d'euros doit concerner 35 000 sociétés.
Par ailleurs, c'est aujourd'hui que démarre la prise en charge des coûts fixes des entreprises. Elles peuvent déposer leurs démarches sur le site des impôts, Carole Ferry.
Exactement. Et si la demande est acceptée, l'État pourra prendre en charge 70% des charges fixes de l'entreprise, jusqu'à 90% même quand il y a moins de 50 salariés. Alors les charges fixes, ce sont par exemple les loyers, les salaires, les factures d'électricité. Cette aide, elle peut aller jusqu'à 10 millions d'euros. Elle concerne uniquement les entreprises qui réalisaient plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois avant la crise et pour lesquelles les aides actuelles sont insuffisantes. Ce sont par exemple les chaînes d'hôtels, de restaurants ou encore les zoos et parcs d'attractions. Arnaud Bennett est le président du syndicat des espaces de loisirs et d'attractions.
Pour comprendre, il suffit de se dire que voilà, si un parc fait 80 000 visiteurs de plus ou de moins pendant une saison, ses charges sont quasiment identiques. Un parc zoologique va devoir s'occuper des animaux, qu'ils soient ouverts ou fermés, les nourrir, leur apporter des soins. Un parc à thème va devoir assurer la maintenance des attractions, l'entretien des espaces verts. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont endettées à hauteur de plus d'une fois leur chiffre d'affaires, alors qu'aucune date de réouverture n'a encore été déterminée.
Vu les montants, chaque dossier sera vérifié par les services fiscaux et l'aide versée après plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. L'affaire Estelle Mouzin, cette petite fille disparue en 2003 en Seine-et-Marne. Une quatrième opération de fouille depuis hier et jusqu'à demain pour tenter de retrouver le corps. C'est à Ville-sur-Lume dans les Ardennes, en présence de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, lui qui avait dit il y a un an avoir pris la vie d'Estelle Mouzin.
Le foot est encore un effort pour les Bleus avant de pouvoir se concentrer sur l'Euro.
Oui, ils jouent ce soir leur 3e match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. C'est à 20h45 face à la Bosnie-Herzégovine. Julien Froment.
Le périple aura été long, mais l'équipe de France et son capitaine Hugo Lloris voient enfin le bout du tunnel de ses 3 premiers matchs de qualification, avec pour terminus la Bosnie, une nation qui compte dans ses rangs 2 stars vieillissantes, l'ancien lyonnais Miralem Pjanic et l'attaquant de l'AS Rome Edin Dzeko. Mais les Bleus ont un statut à assumer, le sélectionneur Didier Deschamps.
Mais évidemment, je ne vais pas aller dire le contraire de par notre statut. On arrive avec l'étiquette de favori, mais je m'attends à un match difficile face à une bonne équipe bosnienne. On analyse avec le staff technique et staff vidéo tous les petits détails, mais l'important c'est nous et ce qu'on devra faire.
Face à une équipe bosnienne qui n'a plus gagné un match officiel depuis 2019, une 8e victoire d'affilée à l'extérieur est attendue pour les Bleus et avec la manière si possible, histoire d'aborder l'Euro en juin prochain avec sérénité.
Julien Froment. Et puis, ce message mystérieux du commandement stratégique de l'armée américaine, autrement dit, l'équipe en charge des armes nucléaires. Voici ce qu'on a pu lire sur son compte Twitter. Point virgule L, point virgule, point virgule G, M, L, X, Z, S, S, A, W. J'espère que vous avez pris des notes. Alors pas de panique, il ne s'agit pas du code de déclenchement de la bombe, mais d'une nouvelle illustration des joies du télétravail, puisque le responsable de ce compte Twitter avait laissé son ordinateur ouvert chez lui et apparemment l'un de ses enfants s'est mis à jouer avec le clavier.
Ah, oui. Des fois c'est le chat aussi qui peut s'installer sur le clavier, j'aime beaucoup. François Geffrier pour le journal, 6h37.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité de ce 5-7 en direct, c'est le professeur Jean-Michel Palotsky. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes virologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, près de Paris, dans le Val-de-Marne. Hôpital qui a donné son nom à ce nouveau variant qui a été détecté par vos équipes. Alors pour l'instant, on est très loin de la situation d'une situation qui serait comparable à celle du variant anglais. Hein, mais on va regarder ça d'un peu plus près avec vous. Faut-il s'en inquiéter ? Vous allez nous le dire dans quelques secondes. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
7h20 sur Europe 1, le professeur Jean-Michel Paolotsky est mon invité. Vous êtes donc virologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Le coronavirus continue de muter. Vous avez donc découvert ce nouveau variant qui s'ajoute à tous les autres, le variant qu'on appelle donc Henri Mondor. Qu'est-ce qu'on sait de lui ce matin ?
Alors, c'est un variant que nous avons identifié il y a maintenant à peu près 6 semaines. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que c'était un variant qui infectait un cluster de 4 personnes différentes, toutes infectées par le même virus, mais un virus qui ne ressemblait pas au virus qu'on avait l'habitude de voir. C'est un virus qui a 18 mutations sur son génome, dont 7 ou 8 en fonction des virus, mais qui appartiennent tous à cette classe de variants, au niveau de cette fameuse protéine spike, qui est une protéine très importante, puisque c'est la protéine qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Donc immédiatement, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de différent. Et dans les semaines qui ont suivi, on a vu plus de cas, en particulier d'autres clusters, mais également des cas individuels de gens non reliés à ces clusters, c'est-à-dire une transmission communautaire. Et c'est ça qui nous a fait identifier ce nouveau variant comme un variant d'intérêt qui est à surveiller.
Il est apparu au sein même de votre hôpital ?
Alors le premier cluster était un cluster de 3 soignants et du conjoint d'un des soignants qui travaille dans un hôpital qui appartient à notre groupe hospitalier mais qui n'est pas l'hôpital Henri Mondor lui-même, c'est un hôpital de la région. On a eu un deuxième cluster de 3 sujets dans l'hôpital, mais la grande majorité des patients sont hors hôpital, bien sûr.
Donc détecté il y a 6 semaines, quelle a été sa progression depuis 6 semaines? Où est-il présent aujourd'hui et combien de cas ont été recensés?
Alors aujourd'hui, sur la dernière enquête flash numéro 4 du 2 mars 2021, nous savons que ce variant représente 1,8% des souches qui circulent en France. Donc ce n'est pas une proportion très importante, mais c'est quand même une proportion significative. Pour comparaison, le variant anglais qui est en train de progresser très vite représente 63%. Et le fameux variant sud-africain représente à peu près 5%. Donc on est un petit peu moins de la moitié du sud-africain. Avec ce variant Henri Mondor, on en trouve pas mal dans la région parisienne. On en a trouvé en particulier dans le Val-de-Marne, et qui est notre département, et en Seine-et-Marne. Mais on en a également trouvé en Bretagne, en particulier un cluster dans un EHPAD. Il y a pas mal de cas qui ont été rapportés en Dordogne, quelques cas dans le sud-est. Donc voilà, il y en a un petit peu partout en France, dans des proportions qui restent relativement faibles, mais néanmoins substantielles. Et la grande question va être de savoir, est-ce que ce 2% progresse dans une direction ou dans l'autre? Est-ce qu'on va en avoir de plus en plus, ou une stabilisation? Ou est-ce que ce variant va finir par être étouffé par d'autres variants qui progressent plus vite?
Est-ce qu'on sait à ce stade s'il est, comme le variant anglais, plus contagieux, s'il est plus grave dans ses symptômes?
Alors, plus grave, on n'en a pas l'impression sur les cas qui ont été rapportés, puisqu'on a vraiment une présentation qui ressemble à la présentation qu'on trouve habituellement. Évidemment, pas encore assez de cas pour le savoir, mais enfin, il n'y a pas eu de cas particulièrement graves. Plus contagieux, on sait que ce virus porte des mutations qui améliorent la pénétration dans les cellules infectées, en particulier 2 mutations, la mutation en position 501 et la mutation en position 452. Donc, c'est un virus qui est potentiellement plus contagieux, à vérifier bien sûr, et nous sommes en train de vérifier cela au laboratoire, dans des cultures de cellules, pour voir s'il y a une modification de l'infectiosité, et surtout ce qui nous intéresse pour l'avenir, pour savoir si le virus est aussi sensible aux anticorps neutralisants, en particulier ceux induits par la vaccination, que les autres virus qui circulent aujourd'hui.
Parce qu'il y a l'hypothèse que ce variant puisse être plus résistant aux vaccins que les autres ?
C'est une hypothèse qu'on doit faire systématiquement. Pourquoi ? Parce que l'émergence des variants, elle est favorisée par l'immunité naturelle. Les variants sont apparus à partir du moment où beaucoup de gens ont été infectés et donc où ça a été plus difficile pour le virus d'infecter de nouvelles personnes. Et donc ces variants, en général, sont moins sensibles à l'action des anticorps neutralisants qui sont induits par la réponse naturelle après une infection, mais potentiellement aussi par le vaccin. Et donc on doit être extrêmement vigilant, puisqu'on est dans une phase où on va vacciner une partie très importante de la population. On va voir apparaître des infections chez certains patients vaccinés, des infections à virus résistants ou moins sensibles, et il faudra bien les identifier. Pourquoi ? Pour améliorer le vaccin et créer les 3e doses et 4e doses de rappel qui, elles, couvriront bien tous ces nouveaux virus variants.
Mmh. Quel est votre sentiment personnel face à ce variant? Est-ce que vous êtes préoccupé?
Je suis ni préoccupé ni pas préoccupé. La découverte de variants, elle se fait parce que nous séquençons. Et aujourd'hui, en France, nous séquençons beaucoup. Et la plateforme de séquençage de l'hôpital Henri Mondor est une des quatre plateformes nationales qui séquence toutes les semaines des milliers d'échantillons. À partir du moment où on réalise cette surveillance, on va trouver des variants et il faut qu'on les surveille. Et le juge de paix, c'est vraiment l'évolution dynamique. C'est de regarder sur plusieurs temps, et nous avons aujourd'hui tous les 15 jours les enquêtes flash, qui sont comme un gros sondage national, de regarder si la proportion d'un variant augmente, se stabilise ou diminue. Et c'est cette dynamique qui nous donne l'information. Par exemple, le variant anglais, on a vu que cette dynamique est à une progression très rapide. Eh ben, on va continuer à surveiller chaque variant nouveau, chaque variant qui est introduit aussi, d'autres pays éventuellement, pour voir dans quel sens va cette évolution et donner l'alerte si elle va dans le sens de l'augmentation.
Il y en a combien des variants sous surveillance aujourd'hui?
Alors, il y en a en France une dizaine, mais en plus des trois variants préoccupants qu'on appelle le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien. Mais en réalité, chaque fois qu'on séquence un nouveau virus, on se rend compte qu'il est un peu différent du virus du voisin. Donc ce qui permet de donner l'alerte, c'est pas de trouver chez une personne un virus avec une mutation, deux mutations, trois mutations. C'est vraiment d'identifier une circulation de ce virus, c'est-à-dire l'existence de clusters, et c'est-à-dire l'existence de cas qui ne sont pas liés à ces clusters et qui témoignent donc d'une transmission communautaire. Et c'est quelque chose qui apparaît et on va voir progressivement que dans tous les pays où on séquence, on va identifier des variants de ce pays. C'est pour ça que cette terminologie par origine géographique est un petit peu stigmatisante et pas très correcte. Il faut les appeler par leur nom scientifique. Mais des variants, et ben c'est l'évolution naturelle du virus et il en émerge en permanence.
D'où cette surveillance donc de ces variants qui semblent plus efficaces aujourd'hui et donc ce nouveau variant qu'on va continuer de surveiller et dont vous nous donnerez des nouvelles lorsque les recherches auront un peu plus avancé. Merci beaucoup, professeur Jean-Michel Paulowski, de nous.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 7h10. Bonjour Anis Hamida.
Bonjour Sébastien Kress.
Votre innovation du jour, c'est un tout nouveau système de chauffage. Alors le principe est assez simple finalement, on récupère l'énergie du soleil le jour, on la restitue le soir ou en hiver pour chauffer la maison.
Oui, c'est simple et en plus c'est très bon marché. Hein. Il n'y a pas de panneaux solaires, pas de batterie, pas d'électricité. Tout repose uniquement sur une simple tuyauterie dans laquelle on va faire circuler un liquide. Alors c'est pas n'importe quel liquide, hein. C'est un liquide qui est capable d'emmagasiner de l'énergie quand il est exposé au soleil. Donc on le met dans des tuyaux transparents sur le toit, on y fait circuler ce fameux liquide pour bien l'exposer aux ultraviolets et le charger en énergie. Et ensuite, on l'envoie dans des réservoirs pour qu'il soit stocké. Il peut rester comme ça pendant des mois. Et à la fin, quand on a besoin de chauffage, on renvoie le liquide vers les radiateurs ou de chauffe-eau en le faisant passer par un catalyseur qui va déclencher une réaction chimique et produire de la chaleur. L'avantage, c'est que tout fonctionne en cycle les fermés, c'est-à-dire que le liquide peut être réutilisé et produire de la chaleur autant de fois qu'on le souhaite, sans électricité et sans émissions de CO2.
Et on peut le stocker, il produit suffisamment de chaleur pour chauffer toute une maison?
Oui, la température va monter de 63 degrés, donc s'il est stocké à température ambiante, on va dire 20 degrés, on aura de l'eau chaude à 90 degrés, donc largement de quoi chauffer une maison. C'est une technologie mise au point par des scientifiques de l'université de technologie de Chalmers en Suède. Elle pourrait servir à développer de nouveaux systèmes de chauffage beaucoup plus écologiques en stockant cette fameuse énergie solaire sous forme liquide.
Elles sont prévues quand les premières chaudières?
En principe l'année prochaine. Et tout devrait aller très vite maintenant que l'équipe a reçu plus de 4 millions d'euros de financement de la communauté européenne.
L'innovation du jour, signée Anis Hamida. Merci. 6h51, on va débuter ce tour du monde ce matin en Israël. Avec vous Clotilde Mravko, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une à Tel Aviv?
Eh bien, il flotte comme un air de vacances dans les journaux ici. Les Israéliens se ruent à Eilat, dans le sud, titre ainsi le Times of Israel. Pendant une semaine, le pays célèbre Pessah, la Pâque juive, et ce sont les premières réelles vacances depuis le début de l'épidémie de coronavirus, il y a un an. Nous allons enfin profiter de la vie, se réjouit une Israélienne interviewée par la chaîne de télévision 12. Eilat, célèbre station balnéaire, a repris son aspect normal après un an d'hibernation, explique le journaliste. Et tout ça, c'est grâce au vaccin, ajoute le journal en ligne Ynet, qui publie des photos d'Israéliens dans les parcs naturels du pays sans masque. Israël a aussi rouvert sa frontière avec l'Égypte, fermée depuis un an, signale Haaretz. Le Sinaï, sur les bords de la mer Rouge, est l'une des destinations préférées des Israéliens au printemps.
Le retour à la vie normale qui se confirme en Israël. Merci à vous Clotilde Mravko, correspondante à Tel Aviv pour Europe 1. Retour en Europe maintenant, direction l'Allemagne. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux à Berlin ?
Une histoire, Sébastien, une histoire qui a fait comme un coup de tonnerre ici, la décision prise hier par un réfugié syrien de 31 ans de ne pas se présenter finalement aux législatives de septembre prochain. Tarek Alaouz avait trop peur pour sa famille, titre Die Zeit, après avoir reçu des menaces verbales et physiques, précise la manchette du Taz. Naturalisé allemand, il était candidat des Verts dans une circonscription de Rhénanie. Pour le Bild, 5 ans après son arrivée sur le sol allemand, le juriste s'était intégré, mais il doit renoncer à son rêve, celui de porter la voix des exilés au Parlement allemand, écrit le Tag Spiegel. Depuis l'annonce de sa candidature il y a 2 mois, il était la cible d'attaques racistes sur Internet et en personne, dans la rue. C'est lamentable pour notre démocratie que cette candidature échoue à cause du racisme, a commenté le ministre des Affaires étrangères sur Twitter.
Merci Hélène Kohl depuis Berlin. Et nous terminons ce tour du monde du jour en Italie avec vous, Blandine Hugonnet. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait les gros titres à Rome ?
Eh bien ici, c'est un scandale de falsification des chiffres du Covid qui frappe de plein fouet la Sicile, comme l'écrit le Corriere. Pendant ces 5 derniers mois, les contaminations ont flambé de façon inquiétante. Mais personne ne l'a jamais su, explique la Repubblica. Les chiffres alarmants ont été volontairement trafiqués par les responsables siciliens de la santé. On n'a qu'à étaler un peu le nombre de morts sur plusieurs jours. C'est ce qu'auraient dit les fonctionnaires incriminés selon Il Fatto Quotidiano. Ils minimisaient le nombre de cas ou gonflaient le nombre de tests pour rester sous les radars du gouvernement, rapporte aussi le Messaggero. Et ainsi, depuis novembre, l'île italienne a réussi à éviter les confinements que subissaient les autres régions. Cette enquête a mené à 3 arrestations hier, rapporte la Stampa, qui ajoute que le responsable chargé de la santé de la Sicile est lui aussi suspecté de falsification et il vient justement de donner sa démission.
Blandine Hugonnet en Italie pour Europe 1. On vous parlait ici même il y a quelques jours de ce concert test qui a eu lieu en Espagne. D'autres vont avoir lieu en France. Et bien après les concerts test, voici les vacances test. Un tour opérateur néerlandais va envoyer 200 vacanciers cobayes en Grèce pour expérimenter une sorte de bulle de voyageurs. On va vous raconter cette expérimentation assez curieuse dès le début du journal de 7h. Le 7-9 de Mathieu Béliard, tout de suite. À tout de suite. À 6h58 sur Europe 1, je vous souhaite une très belle journée. Je reviens demain avec toute l'équipe du 5-7. Mathieu Béliard est installé. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Mercredi 30 mars 2021. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Le monde a changé. On va vous le raconter. Alors, le monde, la France en tout cas, dans l'attente de nouvelles mesures. Un nouveau conseil de défense ce matin, dans l'attente des derniers résultats, des dernières courbes. Jean Castex était à l'Elysée hier soir. Est-ce qu'on va juste resserrer un peu la vis ? Est-ce que le président doit confiner plus sévèrement ? À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Gilbert Deray de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'attente que l'on raconte, bien sûr, dans nos journaux. Mais alors justement, en attendant, vous allez apprendre des choses ce matin. Vous allez en apprendre sur ces 150 000 femmes qui, chaque année, ont recours à un traitement contre l'infertilité. Un roman, un récit, celui de Salomé Berlioux, des années de PMA infructueuses, de processus médical qui ferait passer n'importe qui pour un cobaye, de combat physique, psychique, vous allez l'entendre. La peau des pêches paraît chez Stock aujourd'hui, c'est un témoignage et c'est la première fois qu'elle en parle à la radio ce matin. Écoutez le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Voilà quelques éléments du programme, 6h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour Mathieu. Une amplitude encore très importante hein, entre les températures du matin et celles de l'après-midi. Nous passons de, par exemple, de 2 à 20 degrés, oui, un peu l'amplitude énorme. Mais j'ai regardé dans les annales et ces amplitudes, nos ancêtres l'ont connu aussi. D'ailleurs, un dicton dit « En mars, quand il fait beau, prends ton manteau ». Vous voyez, déjà, ils avaient eu cette amplitude assez considérable. Ce matin, il fait quand même un peu moins froid qu'hier. Hein, 10 à Lyon pour des températures plus élevées, 11 à Brest, 12 à Paris, 13 degrés du côté de Bordeaux. Vous voyez, ce sont des températures moins froides, mais 2 à Charleville. Dans la journée, en Méditerranée, 18 à 20 degrés sur les bords de la Méditerranée, 23 degrés à Toulouse et La Rochelle, 24 à Pontivy comme à La Baule, 25 à Toul, à Lyon et à Château-Chinon, 26 à Paris, 27 à Bordeaux et 28 à Biscarrosse. N'oubliez pas que ce sont les grandes marées, vous allez pouvoir vous régaler encore une fois aujourd'hui. Hein. Hier elles étaient à 112, aujourd'hui 111. Allez hop, à la pêche chaude, non pardon,
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Installez-vous, on écoute le monde changer.